Je suis heureux d'avoir le privilège de prendre la parole devant vous. Vous savez que nous avons commencé il y a 2 semaines l'étude de personnages de la Bible, qui était laissée au choix des prédicateurs. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une femme. J'essaierai, dans mes diverses interventions d'ici le mois de juin, de ne parler que de femmes. Je ne sais pas si je tiendrai ce pari, parce qu'il me semble que le monde de la Bible est un peu viril dans ses grandes figures. Et je me dis qu'il y a sûrement, et vous savez aussi bien que moi, des femmes qui ont fait des choses magnifiques, dont on parle peut-être moins souvent, et j'aurais aimé non pas les mettre en valeur, elles n'ont pas besoin de moi pour ça, mais simplement peut-être les ressortir un peu de l'oubli pour savoir ce qu'elles peuvent nous dire, nous apprendre. Alors, je ne sais pas si ce que je vais vous raconter aujourd'hui va avoir forcément une prolongation dans notre vie quotidienne. Je n'ai pas cette prétention-là. Parfois, c'est sûr qu'il est intéressant que ce qu'on raconte sur la Bible trouve un prolongement dans notre existence. Mais bon, c'est pas non plus une obligation, et parfois simplement l'évocation de la vie de quelqu'un peut nous faire réfléchir, nous trouver un écho par rapport à nos vies personnelles, chacun étant différente de celle du voisin. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je vais vous livrer le fruit de mes réflexions. Alors nous avions, il y a quelque temps, parlé beaucoup des Actes des Apôtres. Nous avons vu que ce qui était intéressant dans ce livre-là, c'est que c'était des gens comme nous, même si ce n'était pas du tout la même époque, et on avait beaucoup fait des rencontres avec des personnes qui vivaient des choses tout à fait particulières et qui pouvaient un peu avoir un effet miroir avec nous-mêmes. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est plus difficile encore. Déjà que les gens du Nouveau Testament vivaient une autre époque, une autre culture, mais on peut trouver peut-être plus de ponts avec ce que nous vivons nous-mêmes. Autant dans l'Ancien Testament, là, on s'en va dans des lieux et dans des époques avec des personnes qui sont culturellement, géographiquement, historiquement, à des années-lumière de ce que peut-être un homme ou une femme de 2017 dans la ville de Grasse. Et pourtant, j'aimerais, à travers la personne dont je vais vous parler, enfin les personnes, parce qu'en fait, il y en a deux, essayer de raconter une histoire qui soit quelque chose de presque quotidien pour essayer de remettre ces figures bibliques qui sont devenues un peu des espèces d'icônes déshumanisées, les remettre avec leurs tripes, leur sang, leur chair, leurs erreurs, pour essayer de voir ce que... Simplement, se rappeler que ces gens qui ont été là au début de la révélation de Dieu... Eh bien, c'était aussi des gens comme nous. Alors, je vais vous parler d'une fille qui, pour moi, est une héroïne peu connue. Alors, peut-être forcément, beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est la fille de Jephthé. Alors, déjà, Jephthé, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, la fille de Jephthé, elle est tellement pas connue qu'elle n'a même pas de prénom. Elle est connue vis-à-vis de son père. Alors, vous me direz pourquoi avoir choisi cette jeune fille-là. Parce que je suis vraiment tombé dessus par hasard dans ma lecture de la Bible et j'étais très, très surpris, puis choqué par ce qui lui arrivait. Presque scandalisé. J'étais très étonné que ce genre d'histoire puisse apparaître dans la Bible. Alors je sais que l'Ancien Testament, ce n'est pas non plus une histoire à l'eau de rose. Il y a des moments durs, des moments pénibles. Mais il y a toujours une forme de... Il y a une raison divine à ce qui peut se passer parfois qui est très cruel. Ne parlons pas de la cruauté de l'Ancien Testament comme quelque chose d'épouvantable. Le XXe siècle et le XXIe siècle sont tout aussi cruels. Hein. Donc voilà. Mais on se dit, comme ça parle de Dieu, forcément, ça doit être tout à fait magnifique. On n'oublie pas que Dieu est là, mais que les hommes sont libres. Et si souvent le mal est commis, il est commis au nom des hommes et rarement au nom de Dieu. Enfin, c'est un autre débat que celui de la cruauté, de la férocité qui a lieu dans le Nouveau Testament, mais là, dans l'Ancien Testament, mais là, vraiment, il s'agit de quelque chose de tout à fait bizarre, cruel, et qui m'a interpellé. Donc j'ai d'abord voulu vous raconter cette histoire, et puis peut-être essayer d'élucider le mystère de cette histoire. Je serais curieux de savoir qui connaît l'histoire de la fille de Jephté. C'est pas du tout. Voilà, un peu, vous voyez, donc c'est quand même. Je pense que si on la connaît si peu, c'est qu'elle est honteuse, cette histoire. Et du coup, quand on écrit des livres, par exemple, pour les enfants, vous savez, les petites histoires qui, pour les enfants ou les jeunes, prennent les belles, les grandes figures, et on fait quelques bandes dessinées, et puis il y a des gens qui apparaissent, mais la fille de Jephté, elle n'apparaît jamais. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de héros, vous serez tout à fait d'accord avec moi, dans la Bible et ailleurs. Il y a les puissants qui sont inarrêtables, qui cassent tout, qui arrêtent tout, qui arrivent à surmonter toutes les épreuves. Et puis il y a les victimes innocentes qui se sacrifient ou qui sont sacrifiées. D'ailleurs, il est à noter que Jésus, lui, il arrive à être ces deux figures-là. Il est à la fois le héros hyper puissant que rien ne peut arrêter s'il le décide, et en même temps, la victime innocente. Personne nous en a parlé, la fille de Jephté, elle n'appartient qu'à la deuxième catégorie. Mais pour entrer dans le cœur de cette histoire et tenter de résoudre cette énigme qui fait que finalement cette magnifique figure est totalement passée sous silence, il faut essayer de se remettre encore une fois dans le contexte historique par rapport à ce que je vous avais dit, qui consiste à essayons de ne pas en faire des figures iconiques, mais des gens comme vous et moi de chair et de sang. Donc, très très rapidement, ce Jephté, c'est un des juges d'Israël. Qu'est-ce que c'est qu'un des juges d'Israël? On a tous entendu parler, mais peut-être essayons de se remettre dans la perspective d'une façon très pédagogique. Dieu se révèle Abraham. On part d'Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a plusieurs enfants, dont Joseph. Joseph, qui est forcé, vous connaissez l'histoire, de s'exiler en Égypte, qui là devient un homme très important au service du Pharaon. Grande famine dans le pays d'Abraham. Joseph retrouve ses frères, tout le monde vient s'installer en Égypte, le peuple hébreu est sauvé grâce à Joseph, il s'installe en Égypte, de là ils deviennent de plus en plus nombreux, donc tout ça, ça se situe, alors les dates, on va dire autour de moins 1500, moins 1600 avant Jésus-Christ. On est dans ces eaux-là, puis il y a quelques siècles en Égypte, le peuple hébreu, sous la férule de Moïse, fuit l'Égypte. C'est donc l'Exode, les 40 ans dans le désert. Puis Moïse meurt et Josué fait rentrer le peuple hébreu dans le pays de Canaan, la terre promise. Josué meurt, le peuple d'Israël est réparti en 12 tribus qui se partagent la terre promise, et commence à ce moment-là, pendant environ 200, 300 ans, le temps des juges. Le temps des juges, en fait, c'est toute l'époque qui va nous mener à Saül, puis à David, puis à Salomon. C'est le temps où le peuple d'Israël, divisé en plusieurs tribus, va essayer de survivre dans cette terre promise. Survivre sans grand guide. Moïse n'est plus là. Samuel va arriver en toute fin, puisqu'on considère qu'il est le 15e juge avant Saül, David et Salomon. Et ça va être pendant ces deux siècles, en gros, une perpétuelle histoire qui va se recommencer. C'est-à-dire que les tribus d'Israël vont abandonner Dieu, pas l'abandonner complètement, mais ils vont se lier d'amitié, ils vont se mélanger avec les peuples autour, ils vont être beaucoup moins proches de l'Éternel. Du coup, ils vont être attaqués, ils ne seront plus défendus puisqu'ils ont, en quelque sorte, ils se sont éloignés de l'Éternel. Ils font des grands cris, ils appellent un sauveur, et il y a un chef qui va se lever, ce chef, on va l'appeler le juge, qui va sauver le peuple d'Israël jusqu'à, quelques décennies passent, la prochaine chute du peuple qui va de nouveau faire n'importe quoi, puis on va rappeler quelqu'un qui va de nouveau sauver. Voilà, c'est récurrent dans le livre des juges. Alors il y en a, je vous dis, il y en a 15 qui sont répertoriés. Ceux que vous connaissez, c'est Gédéon, c'est Samson, Othniel qui est le premier, et donc ce fameux Jephté. Qui connaissait Jephté? A priori, pas grand, un peu, voilà. vous allez comprendre pourquoi on ne le connaît qu'un peu. Et donc c'est dans ce contexte-là, hein, qui me paraît encore très très historique, hein, des gens qui sont sur une terre promise qu'on leur a confiée, qui sont divisés entre eux, les 12 tribus ne s'entendent pas très bien, chacun vit un peu sa vie et défend son bout de territoire qui lui a été confié, que arrive Jephté. Alors, je vais pas vous lire le texte, parce que ça serait un peu trop long, et puis ça dirait tout d'un coup, et du coup vous ne pourriez pas profiter de l'histoire au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est plutôt moi qui vais vous lire les versets au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, en faisant les petites apartés nécessaires pour que ça puisse vous intéresser. Mon côté instituteur qui ressort. Alors, Jephté, donc, c'est considéré comme le 9e juge, et lui, il va arriver au moment du 5e esclavage. Il y a déjà eu 4 étapes où le peuple a été mis en esclavage, ou sous la férule d'eux, et à chaque fois, ils ont été libérés, et lui, il va arriver au moment où ils sont attaqués une 5e fois, cette fois-ci par les Ammonites et les Philistins. Alors, au début, donc ça sera dans Juges 11, Jephté le Galadite était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephté. Donc, d'entrée, en fait, on va suivre une épopée quasi gaulienne. C'est de Gaulle, un peu, cet homme-là. Parce qu'il va avoir tous les prémices du super-héros qui commence très mal et qui monte très très haut. Il commence très mal parce qu'il est le fils d'un Hébreu, mais il a été, comme mère, il a été engendré avec une prostituée. Une prostituée qui ne pouvait pas être une Israélienne, c'était forcément une Cananéenne à cette époque-là. Donc déjà, c'est un bâtard. Bâtard qui va, de ce fait, être rejeté. La femme de Galaad lui enfanta des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Donc là, le héros de base, le héros gaulien, est mis en place, en quelque sorte, ou le héros des contes de fées. Une naissance pas nette, c'est un bâtard, et d'entrée, il est rejeté, il est mis de côté. Verset 3, « Jephté prit la fuite, loin de ses frères, habita dans le pays de Tob. » Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephté, ils faisaient campagne avec lui. Vous allez me dire, là tu parles beaucoup de Jephté, alors tu dis que tu vas parler de la fille de Jephté. Mais si quelqu'un n'est connu que sous le nom de fille d'eux, il faut vraiment connaître qui est cet homme pour pouvoir ensuite apprécier l'identité et la qualité de la fille. Que veut dire le verset que je viens de vous lire? En fait, c'est devenu un chef de gang. C'est devenu quelqu'un, des hommes de rien autour de lui, tel qu'il est écrit, c'est-à-dire c'est des hommes de main, des soudards, qui ont formé une bande, puisqu'ils ont été chassés, et donc qui doivent vivre de... Ils ont dû créer une espèce de petit enclos géographique dans lequel ils vivent, où ils font leurs propres lois, et comme ça, ils sont à côté d'eux, ils ont été mis hors d'eux, mais ils ont, par la force, créé de quoi survivre et être donc encore vivants. Étape de notre conte de fées, de notre côté gaulien, quelques temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Et comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Donc là, le héros qui a été mis de côté, on va le chercher. Pourquoi on va le chercher lui? Parce que lui, ça fait quelques années qu'il sait se battre, qu'il a ce qu'il faut, il a sa petite armée, c'est un dur, c'est un Bruce Willis, il sait comment faire, et ils se disent, eh ben là, on a besoin de lui. Donc, ils oublient le fait que ça soit un bâtard, et ils reviennent le chercher. Et ils le supplient de venir l'aider à combattre les Ammonites. Ils dirent, au verset 6, ils dirent à Jephté, « Viens, tu seras notre capitaine, et nous combattrons les Ammonites. » À ce moment-là, Jephté, qui est tout sauf un imbécile, puisqu'il a réussi quand même à survivre dans des conditions qui n'étaient pas faciles pour lui au départ, va proposer un deal. Et il va dire... Jephté répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Ce à quoi les autres lui répondent, « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, afin que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Alors Galaad, c'est pas une tribu en soi, alors c'est une sous-tribu qui était entre la tribu de Gad et la tribu de Manassé. Les gens ne sont pas très d'accord, mais c'est à l'est du Jourdain. Et Jephthé répond, « Si vous me ramenez pour combattre les Ammonites et que l'Éternel les livre devant moi, c'est bien moi qui serai votre chef. » Donc le deal est mis en place, le rejeton rejeté est mis en avant, il impose ses conditions et du coup, il va prendre la tête des guerriers israélites, pour affronter les Ammonites qui viennent envahir leur pays. Et il va être excellent, il va être très très fort. Il y a plusieurs versets où il est en relation évidemment avec le chef des Ammonites. Il dit, mais pourquoi tu viens nous attaquer? Moi, tu lui dis, parce que c'est vous qui nous avez, il y a 250 ans, que vous êtes venus. Donc quand il y a eu la fin de l'Exode après Josué, avec Josué, ils sont venus attaquer, vous avez pris nos terres, donc maintenant, nous, on veut reprendre nos terres. Alors, je passe parce que c'est très, très précis historiquement. Il lui démontre que s'il est là, c'est parce que eux se sont mal comportés à l'époque, puisqu'à l'époque, ils ne demandaient que des droits de passage, que tout le monde leur a accepté, et les Ammonites leur ont refusé, et les ont même attaqués. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris possession de ce pays. Et nous arrivons au verset 11, au verset 29. « L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé qui traversa Galaad et Manassé, et il passa, etc. » L'important, c'est que l'Esprit de l'Éternel est sur Jephthé. C'est en ça qu'il devient un juge, qu'il devient un chef. C'est que certes, il vient de loin. Il a été imposé par les anciens et lui-même a dit, il s'est imposé, si je gagne, c'est moi le chef. Mais à ce moment-là, au verset 29, il reçoit en quelque sorte la consécration de l'Éternel. Il dit, c'est bien, c'est dans le bon chemin. Je te dis que je suis avec toi, tu peux y aller. Donc c'est une guerre sainte en quelque sorte. On a le sentiment, à juste titre, que tout ce qui se passe depuis sa naissance, en fait, a été dirigé pour qu'à un moment, il vienne sauver Israël. Et c'est là que ça se gâte. C'est là que, pour reprendre mon idée, que De Gaulle pourrait devenir Pétain, je ne sais pas, il y a un problème. C'est que il oublie de rester humble, il oublie de faire confiance complètement à Dieu, et il va avoir cette phrase incroyable au verset suivant. Jephthé fit alors un vœu à l'Éternel. Si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour de chez les Ammonites, donc après la victoire, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Donc alors qu'on ne lui demande rien, l'Éternel est avec lui, lui, de lui-même, il dit, attends, j'ai pas complètement confiance, et donc vraiment, si tu me donnes la victoire, ok, tu m'as dit que tu étais avec moi, mais bon, moi je te dis, la première personne qui sort de chez moi, je te la consacre, je l'offre en sacrifice, et là comme ça je suis sûr d'avoir la victoire. Ce à quoi l'Éternel ne répond rien, parce que c'est pas une demande de l'Éternel, c'est un vœu de Jephthé. Et alors c'est pas un vœu qui est très très courageux, parce que de dire si je gagne, je t'offre quelqu'un en sacrifice, ça va, ils avaient dit si je gagne, moi je me trucide, et à ce moment-là, le peuple sera libéré, et, ok, mais c'est vraiment un vœu qui n'engage pas que lui-même justement, un vœu très très léger, et qui va lui coûter très très cher. Les versets continuent. Évidemment, les Ammonites sont humiliés, puisque l'Éternel est avec eux. L'Éternel n'a jamais abandonné ses troupes quand il a dit qu'il était avec ses soldats. Et arrive au verset 34, qui est très très bien écrit, qui est très cinématographique, je vous le lis. Jephthé revint dans sa maison à Mitzpah, après donc avoir humilié les Ammonites. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, à part cela il n'avait ni fils ni fille. Vous avez compris, il est tenu par son vœu, la première personne qui vient vers lui après sa victoire, c'est sa fille. Or il a promis que la première personne qui viendrait, il la sacrifierait. Là on est en plein drame. Et c'est peut-être pour ça que l'histoire, du coup, elle est moins connue, parce que on se dit, bah là, c'est pas très reluisant. Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, je sais pas, c'est désagréable. Mettez-vous, Dieu, je te promets, tu dis que t'es avec moi, mais ce boulot, je te promets que si j'ai ce boulot, quand je rentre chez moi, la première personne, je lui mets deux baffes. Paf, il arrive et c'est ton fils chéri, c'est Nikita, bing, boum. Non, c'est toute proportion gardée, c'est ça. Et ça crée vraiment le vrai malaise. Et la tragédie commence. Au verset suivant, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements, il y a de quoi, et il dit, « Ah, ma fille, tu m'accables, tu es au nombre de ceux qui m'affligent, j'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel et je ne puis revenir en arrière. » Alors, pourquoi dit-il ça ? Parce qu'il était quand même devenu donc le chef d'Israël, le juge, il était tenu par des serments, enfin par sa fonction même ne lui permettait pas de ne pas donner d'exemple. Et en plus, il connaissait forcément, où les prêtres qui étaient autour de lui le lui ont rappelé, simplement deux petits textes dans Nombre 30, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ou bien encore un proverbe 20, 25. Qui dit, c'est un piège pour l'homme de dire à la légère c'est sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Donc il sait bien, même si les proverbes ils ont été écrits après, mais au moins il y a Nombre. Au moins, on peut lui rappeler ce qui est écrit dans Nombre. Attention, là, tu fais quelque chose qui... Tu as fait un vœu, tu dois le tenir. En plus, tu es notre juge, tu es notre chef. Tu ne peux que donner l'exemple. Sinon, tout part à volo. Et on peut se demander à ce moment-là, parce qu'on arrive enfin à la fille de Jephté, quelle va être sa réaction ? Vous imaginez, vous avez « Papa, t'as gagné, génial !»« Bah oui, ma fille, mais viens, parce que quick !» Qu'est-ce qu'elle va faire ? Moi, mon père me fait ça, je fuis, je supplie, ou au moins je lui fais des reproches. Elle, rien. Je continue, elle lui dit, première fois qu'elle prend la parole, « Mon père, tu as trop ouvert la bouche devant l'Éternel. » C'est un reproche. C'est gentil, mais c'est un reproche. « Agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les Ammonites. » Donc, elle lui dit, quand même, c'est pas très sympa ce que tu m'as fait, mais tu dois tenir ta parole. Elle le rappelle à sa fonction qui est liée au fait que Dieu est avec lui, et dit, fais ce que tu as dit. Belle leçon, extraordinaire. Quelle acceptation. Et l'histoire va continuer de façon alors, vraiment bizarre à ce moment-là. Elle dit à son père, que ceci me, je ne saute rien, je suis dans la continuité, que ceci me soit accordé. Alors on va lui dire, je ne sais pas, laisse-moi m'amuser, laisse-moi prier. Elle dit, laisse-moi un délai de 2 mois. Je m'en irai, j'irai dans les montagnes et je pleurerai sur ma virginité avec mes amis, IES. Hein. Il répondit, va, il la congédia pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Donc, elle dit simplement, laisse-moi 2 mois pour me faire ce pourquoi tu t'es engagé en ton nom sur moi. Je vais dans les montagnes avec des copines, des amis, et là, pendant 2 mois, on va non pas faire la fête, non pas faire des bacchanales, mais on va simplement pleurer sur ma virginité. Soit. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas connu d'homme, et dès lors s'établit en Israël cette règle. Chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, la Galadaïte, 4 jours par an. C'est ça l'histoire, la fille de Jephté. Alors, moi quand je lis ça, moi je ne suis pas content. Je ne suis pas content que... Je ne suis rien, d'accord, mais je ne suis pas content parce que je me dis que l'Éternel ait permis ça... C'est quand même mettre dans la main de l'homme une liberté qui parfois est absolument épouvantable. Et surtout quand cette liberté-là, elle fait du mal à quelqu'un d'autre. Et la fille de Jephté, non seulement elle n'a rien fait pour mériter ça, et en plus elle réagit de façon extraordinaire. Mais, alors on se dit, comment on peut obéir à un père si monstrueux? Comment on peut accepter ça? Alors on pourrait se rappeler Genèse 22, vous savez, mais ça ressemble tout à fait à l'histoire d'Abraham et d'Isaac. C'est pas pareil, un fils sacrifié par son père. Sauf que là, il y a deux différences énormes. C'est Dieu qui demande à Abraham. Et Abraham, il n'y pense pas du tout, lui, il est normal. Il pense qu'il va faire un bouc. Enfin, il dit, tu prends ton fils et tu vas l'égorger. Et puis Dieu, deuxième différence, il arrête le couteau. Donc, on n'est pas du tout dans le même schéma. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible que le Dieu qu'on connaît dans cette Bible, Ancien et Nouveau Testament, il y a peut-être des choses que je ne peux pas comprendre, mais ça, ça me gêne. Alors, j'ai un peu cherché, et il y a plein de petits détails qui m'ont fait montrer qu'il fallait chercher peut-être quelque chose d'autre. D'abord, il y a deux textes dans Deutéronome qui, de façon absolument claire, précise, disent que le sacrifice humain est une abomination. Donc Deutéronome 12, 31. Tu n'agiras pas, donc parlant des dieux des autres peuples, il dit, Dieu, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles, c'est-à-dire les autres populations, faisaient pour leurs dieux toutes sortes d'horreurs qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Tu ne feras pas ça. Et un autre dans 18, 10, il y en a d'autres, hein, mais je vous lis que ces deux-là. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, etc. Donc l'interdit, il est clair. Jephté, il le connaît, cet interdit. Il est le juge, il est le chef, et s'il ne le connaît pas, avec son passé de soudard, il y a forcément des responsables religieux qui lui rappellent ça. D'autre part, ce qui est curieux, c'est que si Jephté avait vraiment fait cette horreur, ça lui aurait été imputé d'une façon ou d'une autre. Or, quand on lit le chapitre 12, il va gagner la guerre. Il gagne la guerre. Il y a même une autre tribu d'Israël qui vient l'affronter, les Éphraïm, en disant ouais. Donc il va d'ailleurs en tuer 40 000 avec. Bon, ça, c'est leur histoire à eux. Mais il gagne. S'il avait vraiment fait cette horreur, un moment ou l'autre, Dieu ne laisse pas impuni ça. C'est pas possible. Et pourtant, il finit en héros. Il finit tellement en héros que dans 1 Samuel 12, 11, donc Samuel, c'est la fin des juges, donc il fait la chronique de tout ce qu'il y a eu avant lui, il en cite quelques-uns, très peu, il refait toute l'histoire, comme je vous ai fait depuis le début, à Abraham, et il dit au verset 11, « Et l'Éternel envoya Yérubbaal, puis Bédan, Jephté et Samuel. Il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, vous avez pu habiter en sécurité. » Donc sur les 14, il en cite 4, dont Jephté. Ça veut dire que Jephté garde une image forte, une image belle, une image riche. Ça ne peut pas être possible si tu as sacrifié ta fille, si tu l'as égorgée, si tu l'as brûlée. Il n'a pas pu faire ça en secret, c'est impossible. C'était le juge, c'était le chef, tout était fait. Regardez, la moindre Pénélope, aujourd'hui on sait qu'elle a eu un emploi fictif, un sacrifice réel, ça ne passe pas inaperçu. Et puis il y a un autre petit détail. Au chapitre 12, je vous ai dit, des juges, quand il a gagné contre les Ammonites, il y a donc la tribu, les hommes d'Éphraïm se groupèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephté, « Pourquoi es-tu passé pour les combattre les Ammonites sans avoir appelé à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Donc guerre entre les tribus, qui se terminera très mal pour la tribu d'Éphraïm. Le seul reproche que fait la tribu d'Éphraïm à Jephté, c'est « Pourquoi t'es allé à la guerre contre les Ammonites sans nous ?» Sous-entendu, toutes tes victoires et tes conquêtes ne te profitent qu'à toi et pas à nous. Pas une fois, il y a, non mais d'accord, tu as gagné contre les Ammonites, mais tu as fait un crime que l'Éternel refuse absolument. Tu as sacrifié ta fille, c'est interdit. Donc dehors, c'est pas ça l'objet du litige. C'est quand même curieux. Et puis pourquoi, 3 fois dans ce que je vous ai lu des paroles de la fille de Jephté, elle dit pas, Laisse-moi un délai de 2 mois, je m'en irai sur les montagnes, je pleurerai sur ma virginité avec mes amis. Moi, si on me dit dans 2 mois tu meurs, je ne vais pas pleurer sur ma virginité, c'est fini, mais je veux dire sur mes dents qui me manqueraient ou mes cheveux en moins, ou je ne sais pas. Je dirais, j'irai pleurer sur ma vie qui va s'en aller. La virginité n'est pas le symbole de la vie au sens premier du terme. Et 3 fois, elle le dit. Elle pleura sa virginité sur les montagnes. Elle n'avait pas connu d'homme. Tout ça m'a fait dire qu'il y a quelque chose qui a peut-être été mal compris. Mal dit ou caché. C'est pas possible. Et quand on cherche, on trouve quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors là, il faut aller dans les vieilles traductions de la Bible et dans les écrits des savants juifs, qui ne sont donc pas chrétiens. Et vous trouvez, alors ils ne sont pas d'accord du tout, il y a une grande bagarre de mots, que le fameux verset 31 que je vous ai lu, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre. Alors c'est traduit différemment dans toutes les Bibles. Mais il y a 2 Bibles, une Bible juive du 19e siècle qui dit quiconque, la première créature qui sortira de ma maison. Et une Bible protestante, la Bible Martin de 1744, qui dit tout ce qui sortira de ma maison. Déjà, le côté toute personne qui sortira peut et est contesté par certains traducteurs en disant toute créature, tout ce qui sortira de la maison. Et deuxième point, encore plus passionnant, la fameuse phrase, donc quiconque sortira des portes, à mon heureux retour de chez Ammonites sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. En fait, le fameux et en hébreu, alors là, je fais confiance au rabbin, etc., c'est et ou, ce qu'on appelle le et non inclusif. C'est-à-dire c'est ou l'un ou l'autre. Et il donne d'autres exemples dans la Bible, tu croiras ou ton père et ou ta mère, enfin il y a plusieurs exemples, qui feraient dire que ce fameux verset pourrait être potentiellement le suivant, et est défendu par beaucoup comme étant le suivant. Toute la première créature qui sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour des Ammonites, sera consacrée à l'Éternel ou je l'offrirai en holocauste. Et à ce moment-là, à la lecture de ça, on se rend compte que tout prend une logique qui n'est peut-être pas si bête. En effet, elle vient, elle dit pas, elle ne fuit pas, parce qu'elle va peut-être savoir qu'on ne va pas lui trancher la vie, puisque c'est un être humain qui est sorti. Si c'était un animal qui était sorti, il l'aurait sacrifié. C'est un être humain, donc ce n'est pas le penchant sacrifice de la proposition, c'est le penchant voué à l'Éternel. Et c'est pour ça qu'elle va parler aussi longtemps de sa virginité. Parce qu'être voué à l'Éternel à cette époque-là, en étant une jeune fille, s'être remis au service de Dieu au temple, ou avec des prêtres, en étant vierge, forcément. Il y a plusieurs textes dans l'Exode, etc., qui montrent que près du tabernacle, il y avait des groupes de jeunes filles vierges qui étaient là avec leur miroir. Enfin, tout ça est assez clair. Et donc, voilà pourquoi cette jeune fille accepterait, entre guillemets, mieux son sort, qui réclame quand même beaucoup pour sa part d'amour de son père, de respect de Dieu et de confiance, parce qu'en fait, elle va perdre sa liberté de femme en étant continuellement au service de Dieu. Et si vous lisez bien, il est marqué, au bout des 2 mois, elle revint vers son père, il accomplit sur eux le vœu qu'il avait fait. Il n'a aucunement marqué nulle part qu'il l'a tué. Alors vous allez me dire, c'est anecdotique. Je ne pense pas que ça soit anecdotique. Non, c'est une version, ce n'est pas ma version, ce n'est pas moi, Luc Girard, qui a inventé un truc. Hein, je veux dire, ça existe, hein, ça fait partie. Et c'est pour ça qu'on en parle peu. Parce que vraiment, sur ce texte-là, il y a discussion. Et comme il y a discussion, on préfère le mettre sous le boisseau en disant on ne va pas tirer une bombe à retardement. Mais pour nous, ça change beaucoup de choses. Parce que, du coup, si cette explication est la bonne, et pourquoi ne la serait-elle pas? Parce que je pense qu'avoir donné quelques explications qui, eux, vont dans la logique générale de l'histoire, jusqu'au fait qu'ensuite, Jephté est considéré comme un juge, un héros et un grand bonhomme, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que Dieu ne fait pas n'importe quoi, ce qui est rassurant, qu'une forme de confiance en Dieu, de respect de ses parents, enfin une forme de moralité au sens noble du terme, est tout de même récompensée. Et on revient au mythe, à l'histoire de la virginité, c'est-à-dire que cette fille de Jephté, finalement, Marie, la Vierge la plus célèbre, eh bien c'est aussi quelqu'un qui a mis sa virginité au service de Dieu. C'est aussi quelqu'un qui a obéi, qui a accepté, qui n'a pas rechigné, qui n'a pas fui. C'est... Quand on lit dans 2 Corinthiens 11, 2, mais je ne vais pas vous lire parce qu'il est tard, que on doit être présenté au Christ comme une vierge pure. Il dit, c'est la fille de Jephté, de simple héroïne sacrifiée de manière injuste et incompréhensible pour nous, devient peut-être la première image de l'innocence absolue sacrifiée pour une valeur plus grande qu'elle-même. Évidemment, ça nous renvoie à Jésus, qui lui aussi s'est sacrifié alors pour qu'on soit tous sauvés. Elle, c'est simplement pour que son Père puisse continuer à être le juge, continuer à faire le bien autour de son peuple, puisque après lui, il va y avoir plusieurs années de paix avec tout le travail de guerrier qu'il aura fait. Je vous avais dit, je ne peux pas tirer de cette histoire une morale qui va nous servir. Tiens, ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais être la fille de Jephté, je vais traiter ma fille. Non, je ne peux pas dire ça. Je veux juste, ce qui m'intéressait, montrer deux choses. D'abord, quand on lit la Bible, il faut faire hyper attention. Parce que quand on fouille un peu, on se rend compte, déjà à travers les traductions et plein de choses, qu'il y a des vérités qui nous sont pseudo-révélées, mais qui ne sont peut-être pas aussi simples que ça. Donc, essayons d'être toujours à l'écoute de ce qu'on nous dit, à l'écoute de ce qu'on lit, et d'essayer d'aller plus loin pour comprendre vraiment ce qui se passe, surtout quand quelque chose nous dérange. Si quelque chose nous dérange et qu'on est sincère et qu'on ne comprend pas, parfois on ne va pas comprendre du tout. Soit, mais parfois on peut peut-être aller plus loin et essayer de voir vraiment le plan de Dieu qui se cache derrière ce qui nous paraît incompréhensible, voire scandaleux. Et deuxième chose, quand même, cette fille, elle est d'une fraîcheur, d'une innocence intelligente qui est tout à fait réjouissante. Et ça, qu'on soit dans l'Ancien Testament il y a 1500 ans, il y a 3500 ans, ou aujourd'hui, c'est une valeur qu'on peut avoir pour nous-mêmes. Et essayer de cultiver en même temps le respect des gens qui nous entourent, la confiance absolue en l'Éternel, et surtout le fait qu'on ne peut pas se moquer de l'Éternel. C'est-à-dire, si son Père a fait ce vœu, tu dois le respecter. J'ai l'impression que ça remet un peu en perspective ce que nous sommes par rapport aux gens qui nous entourent et surtout par rapport à Dieu. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché dans cette histoire. Je n'ai pas de grande conclusion. Voilà, j'ai que ça à vous offrir. La fille de Jephté. Ne l'oublions pas, parce que même dans les fêtes juives, elle a disparu. Là, il est dit que pendant quelques années, puis après, non, ça n'existe pas. Mais ça peut nous dire beaucoup de choses. Et puis surtout, parfois quand on pense à des horreurs ou qu'il y a des horreurs, ne mettons pas sur le compte de Dieu facilement. Hein, prenons nos responsabilités par rapport à ça. Merci.